La diapo devrait apparaître. Merci. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur parce que effectivement tu es bien parmi nous, tu es venu, tu nous conduis, tu nous offres ton amour par grâce. Tu nous offres aussi ta révélation. Tu nous conduis jour après jour, tu nous parles et nous voulons encore être à ton écoute, continuer de méditer ta parole et de nous laisser toucher par elle. Au nom de Jésus. Amen. Il y a quelques semaines, nous prenions la route en famille pour aller à Strasbourg, car j'ai été invité à rencontrer l'église pour le week-end et à prêcher au culte du dimanche. C'était au mois d'octobre. Nous sommes partis prendre l'autoroute à Artenay et juste à quelques minutes de l'entrée de l'autoroute, nous rencontrons un panneau. Celui-ci, enfin, c'est pas exactement celui-ci, mais route barrée. Non, les routes ne sont pas comme ça par ici. C'est ce genre de panneau, route barrée. Nous avons dû faire un grand détour et perdre bien 20 minutes alors que nous étions partis déjà en retard. Ces routes barrées, j'ai l'impression de tomber dessus à chaque fois que je suis en retard. Dans la Bible, Dieu utilise beaucoup d'images avec des chemins, avec des routes. Pour le mois de janvier, depuis le mois de janvier, nous survolons l'histoire biblique dans son ensemble, dans les grandes lignes, de la Genèse à l'Apocalypse. Et si l'on regarde l'histoire du peuple d'Israël depuis ses origines, depuis Adam et Ève, en passant par Noé, puis Abraham, Isaac et Jacob, si l'on regarde l'histoire de ce peuple, on constate malheureusement sa difficulté à faire route avec Dieu. Le peuple a tendance à s'écarter du chemin. C'est pour cela que Dieu a sans cesse envoyé des prophètes, afin de rappeler aux dirigeants du peuple et au peuple lui-même qu'ils ont besoin de revenir à Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au dernier prophète d'Israël, Malachie, qui a annoncé la parole suivante au peuple. Malachie 3, verset 1. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le maître de l'univers. En résumé, le dernier prophète, en tout cas le dernier prophète officiel, celui dont on a le livre dans la Bible, le dernier prophète d'Israël annonce ceci au peuple, c'est mon premier point. Mon messager me préparera le chemin. Ce matin, nous allons voir qui est ce messager et comment il a préparé le chemin de Dieu. Mais avant cela, il est important de parler du contexte dans lequel le prophète Malachie a prononcé ses paroles. Malachie a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. À l'époque, Israël est bien appauvri. Il est encore sous la domination de l'Empire perse. Le temple de Jérusalem a été reconstruit, mais avec les moyens du bord. Ce n'est pas un édifice aussi glorieux qu'à l'époque, enfin qu'à l'origine. Les Israélites se sont accrochés à Dieu pendant quelque temps, mais en ne voyant aucune amélioration de leurs conditions, ils se sont dit que cela ne valait pas la peine d'honorer Dieu. Alors, ils ont bien continué à faire des rituels religieux, mais sans trop de conviction. Malachie a pour rôle de réveiller le peuple. Il leur annonce qu'ils sont hypocrites et qu'ils doivent revenir sincèrement à Dieu. En effet, les Israélites offrent bien des sacrifices, mais ils offrent des bêtes handicapées. Les hommes quittent leurs femmes pour en épouser des plus jeunes. Les prêtres sont délaissés. Le peuple s'adonne à l'idolâtrie. Et l'injustice règne. C'est tout ce que dénonce Malachie. Et décidément, c'est toujours la même chose. Dans ce contexte, Dieu aimerait bien être plus présent. Il aimerait bien conduire le peuple et même bénir son peuple. Mais la route est barrée. La route est barrée. Dieu n'a plus accès au cœur des Israélites. Leur cœur est rempli d'idolâtrie, d'injustice et d'hypocrisie. Pour le Seigneur, la route est barrée. C'est pour cela que Dieu annonce à travers Malachie : « Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. » C'est l'une des dernières paroles de l'Ancien Testament, de la Torah. Car après Malachie, c'est la fin de l'ère prophétique. L'Ancien Testament s'achève avec le livre de Malachie. C'est étonnant parce que Dieu dit à son peuple : « Je vais venir. Quelqu'un va me préparer le chemin et je viendrai parmi vous. » Et une fois cette promesse annoncée, Dieu laisse le peuple attendre. Il attend pendant plus de 4 siècles. Après les 4 siècles, ce messager qui prépare la venue de Dieu lui-même arrive enfin. Il est présenté dans les évangiles et il s'appelle Jean-Baptiste. Mais avant de passer à Jean-Baptiste, il peut être utile de s'intéresser à l'histoire des Juifs pendant cette période qu'on appelle intertestamentaire, pendant cette période intermédiaire. Autrement dit, pendant les 4 siècles qui séparent Malachie de Jean-Baptiste, qu'est-ce qui est arrivé au peuple juif ? C'est mon deuxième point, entre le prophète Malachie et le messager Jean-Baptiste. En fait, la Bible ne parle pas de ces 4 siècles, et c'est fait exprès. Dieu nous enseigne que c'est lui qui choisit le timing. Il réalise ses promesses en temps voulu, et c'est fait exprès. Dieu agit toujours au bon moment. Cette absence de révélation biblique pendant 4 siècles nous apprend aussi que Dieu attend de son peuple qu'il reste fidèle, même sans signe spectaculaire. Ce temps de silence met également en évidence la nécessité d'attendre. Dieu agit, mais il nous demande d'être patient. Alors on parle de 4 siècles de silence, mais il ne faut pas oublier que Dieu est toujours à l'œuvre. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas envoyé de prophète qu'il a arrêté d'agir. Déjà au temps des prophètes, un reste du peuple continuait d'être fidèle à Dieu. Et lorsque Jean-Baptiste viendra, il trouvera un peuple assoiffé de la parole de Dieu, prêt à se faire baptiser, prêt à l'écouter. La foi de Dieu, la foi en Dieu, ne s'est pas éteinte. Mais que s'est-il passé pendant ce silence prophétique ? Parce que Dieu n'a pas envoyé de prophète, mais le peuple a bien vécu des choses, des événements. Eh bien, d'après des sources historiques, on peut connaître quelques éléments. Du temps de Malachie, Jérusalem était, comme on l'a dit, sous la domination de l'Empire perse. Ensuite, Alexandre le Grand a conquis ces territoires. Et Jérusalem a été dominée par les dirigeants et les dynasties de l'Empire d'Alexandre. On appelle les hellénisants, donc les gens de culture grecque. Parmi eux, parmi ces gens de culture grecque, la dynastie des Séleucides a fait beaucoup de mal aux Juifs. L'un de ces rois, qui s'appelait Antiochus Épiphane IV, vous n'êtes pas obligé de retenir, eh bien, ce roi, il a souillé le temple de Jérusalem en y installant une statue du dieu Zeus. En gros, il a mis au moins une idole dans le temple de Jérusalem. Les Séleucides n'ont pas fait que ça. Ils ont forcé les Juifs à adopter la culture grecque. C'est-à-dire, interdiction de circoncire les enfants, interdiction de respecter le sabbat, interdiction de faire des sacrifices pour Dieu, obligation de manger du porc, obligation de participer à des cultes païens idolâtres, obligation d'abandonner les lois de Moïse. Parmi le peuple, certains ont adopté la culture grecque et d'autres ont résisté au risque de perdre leur vie. Pendant cette période très difficile, des résistants ont lancé une révolte. Il s'agit de la révolte des Maccabées. Et on y trouve un écho dans le livre qu'on appelle le livre des Maccabées. C'est le nom donné aux combattants de la résistance. Il se trouve que les Maccabées arrivent à acquérir l'indépendance de la Judée et de Jérusalem. Grâce à eux, grâce aux Maccabées, donc en gros les Maccabées ce sont les résistants, grâce à eux, les Juifs peuvent de nouveau pratiquer leur foi, en tout cas avec plus de liberté, pendant près d'un siècle. Mais plus tard, l'Empire romain arrive et l'Empire romain s'impose. Les Romains sont moins durs avec les Juifs, mais ils font peser sur eux des taxes et des impôts importants. Et surtout, la Judée, donc Jérusalem aussi, perd à nouveau son indépendance. Les Juifs sont forcés d'être sous domination romaine. Malgré cela, tout se met en place quand même pour l'arrivée du messager de Dieu, Jean-Baptiste. Et tout se met également en place pour la diffusion de la bonne nouvelle. En effet, pendant la période grecque et la période romaine, tout le bassin méditerranéen s'est en quelque sorte modernisé. De grandes villes sont construites, ainsi que des ports, et surtout des routes, avec des infrastructures importantes. Grâce aux civilisations grecques et romaines, les personnes circulent plus facilement d'une ville à l'autre. Les idées circulent aussi plus facilement, d'autant plus que la langue grecque s'est généralisée. Pendant ces 400 ans où Dieu n'a pas parlé à travers des prophètes, le Proche-Orient s'est développé. Des connexions se font entre les villes et les villages. Pour l'époque, je dis bien pour l'époque, c'est comme si Internet avait été inventé, puisque les gens et les idées sont en connexion et circulent plus rapidement, plus facilement. Ces quatre siècles ont aussi, et malheureusement, créé des tensions au sein du peuple d'Israël. Pendant toutes ces années, les chefs religieux ont voulu protéger la foi d'Israël. Ils avaient peur de voir le peuple perdre son identité et oublier la loi en Dieu. Alors que fait un peuple quand il a peur de perdre son identité? Eh bien, il renforce son identité. Petit à petit, les autorités religieuses ont ajouté de nombreuses règles et de nombreuses traditions. Parmi eux, les pharisiens sont devenus très stricts. Leur intention était bonne au départ, aider le peuple à rester fidèle. Mais avec le temps, ces règles sont devenues un fardeau lourd à porter pour les Juifs. En plus de cela, le pouvoir romain était pesant. Les Juifs étaient soumis avec beaucoup de taxes à payer, comme on l'a dit. Le peuple était donc fatigué et chargé. Un peuple fatigué et chargé. Entre le pouvoir religieux trop autoritaire et le pouvoir politique trop oppressant. Ils avaient besoin d'une personne pour venir apporter de la justice et surtout pour apporter un vrai retour à Dieu. Un retour à Dieu qui ne passerait pas par des lois, mais par une relation authentique avec Dieu. Cette personne, ce messager, nous l'avons dit, c'est Jean-Baptiste. C'est lui qui prépare la route de Dieu. Il est présenté dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 3. Et je vous invite maintenant à lire quelques versets sur Jean-Baptiste. Chapitre 3, donc Luc chapitre 3, versets 2 à 16. C'est mon troisième point, Jean-Baptiste, le messager qui prépare le chemin. Lisons les versets 2 à 16. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et on l'appellera Jean-Baptiste parce qu'il baptise. Et Jean parcourut toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout homme verra le salut de Dieu. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-même « Nous avons Abraham pour ancêtre ». En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait. Que devons-nous donc faire ? Il leur dit, que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas. Que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi se faire baptiser. Ils dirent, Maître, que devons-nous faire ? Il leur répondit, N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, Et nous, que devons-nous faire ? Il leur répondit, Ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne, et contentez-vous de votre solde. Le peuple était dans l'attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Voilà donc quelques versets sur Jean-Baptiste. Il parcourt toute la région du Jourdain. Et ce texte nous apprend qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert, qui est annoncé aussi dans le livre du prophète Ésaïe, parce que Jean-Baptiste est annoncé chez Malachie, mais il est aussi annoncé chez Ésaïe. Il est dit qu'il crie dans le désert. C'est intéressant. Le désert n'est-il pas le lieu où il n'y a personne ? S'il n'y a personne, à qui est-ce qu'il crie ? Et pourquoi dit-on qu'il crie ? C'est peut-être pour dire que cette voix s'élève là où il n'y avait plus rien. Cette voix survient alors que c'était le silence prophétique pendant plus de 400 ans. Cette voix se fait entendre alors qu'il y a une soif spirituelle, mais aucune oasis pour rafraîchir le peuple. Jean-Baptiste parle comme un prophète, parce qu'il est prophète. Il dénonce ce qui ne va pas. Et il trouve un public qui est touché par ce qu'il dit, qui l'écoute. Le peuple en avait assez des autorités religieuses sévères et hypocrites. Le peuple en avait assez des autorités politiques oppressantes. Jean-Baptiste parle sévèrement, oui, parce qu'il condamne sévèrement l'hypocrisie religieuse et l'injustice sociale. Il parle d'Abraham parce que les religieux pensaient être sauvés sous prétexte qu'ils sont descendants d'Abraham. Mais Jean-Baptiste leur dit que ce n'est pas cela qui compte. Dieu peut faire naître des descendants d'Abraham à partir de simples pierres. Ce qu'il veut dire, c'est que Dieu peut transformer tous les cœurs, même les cœurs durs comme de la pierre, même le cœur de ceux qui sont loin de Dieu, même le cœur de ceux qui ne sont pas descendants d'Abraham. Jean-Baptiste rejoint les préoccupations du peuple. Il demande à celui qui a deux chemises de partager, de celui qui a de la nourriture d'en donner à celui qui a faim. Il demande aux collecteurs d'impôts d'être juste. Enfin, une personnalité qui prend la défense du peuple et qui parle de manière authentique. Enfin, un prophète qui ose déranger et attaquer l'injustice, même si il doit risquer sa vie pour cela. Et Jean-Baptiste a risqué sa vie. Il l'a perdu parce qu'il a dénoncé des choses mauvaises qui arrivaient. Au verset 16, il annonce bien sûr la venue de celui qui est plus grand que lui, Jésus. Rappelons-nous de ce que dit la prophétie de Malachie. Voici que j'enverrai, donc c'est Dieu qui parle, j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Le messager prépare la venue de Dieu en personne. Ici, Jean-Baptiste prépare la venue de qui ? De Jésus. Dieu en personne. Dieu avec nous. Dieu parmi nous. Tout est en place pour la venue de Jésus. Les routes barrées commencent à être praticables. Jésus arrivera pour annoncer le salut par grâce et non par la loi. Les auteurs du Nouveau Testament utiliseront la langue grecque pour s'adresser à tout l'Empire romain et même au-delà. Ils utiliseront aussi toutes les infrastructures, les routes et les ports pour se déplacer, pour diffuser l'Évangile. Alors pour conclure, revenons à cette image des routes barrées. Pendant la période de l'Avent, dans laquelle nous nous trouvons, on dit souvent qu'il faut préparer la venue de Jésus à Noël. Mais Jésus est déjà venu il y a 2000 ans. Alors que devons-nous préparer? C'est surtout son œuvre de transformation dans notre cœur. Avons-nous des routes barrées dans notre cœur? Souvent, notre orgueil est une barrière pour Dieu, lui qui veut nous apprendre l'humilité. Notre autonomie ou notre indépendance sont une barrière pour Dieu, lui qui veut nous apprendre à dépendre de lui. Notre illusion de nous sauver nous-mêmes par une vie religieuse ou une vie correcte est une barrière pour la grâce. Notre désir d'être servi au lieu de servir est une barrière pour Dieu qui veut nous apprendre le renoncement. Il ne veut pas que nous renoncions à notre identité, mais à notre ego, à notre gloire personnelle. Les textes de Malachie et de Luc nous invitent à laisser Jésus prendre la route jusqu'à nous. Et je pense qu'ils nous invitent aussi à être des Jean-Baptistes. Celui-ci a préparé la route du Seigneur. Souvent, on parle d'évangélisation comme si l'Église devait convaincre, voire même convertir des gens. Mais la conversion vient d'une rencontre entre une personne et Jésus. Et cette rencontre, nous ne pouvons en aucun cas la forcer. En revanche, ce que nous pouvons faire, c'est préparer la route pour Jésus. Nous pouvons enlever certaines barrières qui séparent les gens de Dieu. Ces barrières peuvent être des préjugés sur la Bible, des incompréhensions sur la Bible. Ces barrières peuvent être une mauvaise image de Dieu. Notre témoignage est là pour préparer la route de Jésus et que la rencontre puisse se faire. Que ce temps de l'Avent ne soit pas juste un temps où nous attendons la fête, mais un temps où nous ouvrons notre cœur d'autant plus à Jésus. Un temps où nous enlevons les obstacles qui empêchent son action. Et un temps où nous devenons, à notre manière, des messagers qui préparent la route du Seigneur. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Père, parce que tu as envoyé ton Fils jusqu'à nous, malgré les routes barrées. Tu as tout préparé pour que Jésus puisse venir apporter le pardon des péchés, apporter le salut, la grâce, ton amour, la bonne nouvelle. Aide-nous à enlever tous les obstacles de notre cœur, à ton action dans notre vie. Et je parle pour moi personnellement, je sais qu'il y a des obstacles dans mon cœur pour ton action dans ma vie. Viens encore travailler en moi, viens travailler en nous pour nous purifier encore plus, pour que l'action de ton esprit soit pleine et entière dans notre vie, dans ton Église. Seigneur, aide-nous aussi à être des Jean-Baptistes, à être des messagers qui préparent la route pour que le plus de personnes possibles puissent te rencontrer. Nous savons que tu souhaites rencontrer chaque personne que tu aimes. Alors nous voulons être des facilitateurs de cette rencontre. Viens nous inspirer, viens nous donner des occasions et viens même créer des occasions pour que nous puissions être ces messagers, ces témoins de la bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Amen.